des données à la salle de Carquefou qui s'appelle La Fleurier en février dernier. Et ça a été donné par quelque chose qui s'appelait la Compagnie Italienne d'Opéra de Milan. Alors c'est exactement pareil, si vous êtes mélomane, vous savez qu'à Milan, il n'y a rien du tout qui s'appelle la Compagnie Italienne d'Opéra de Milan. Et donc, je ne vais pas partir de qui a organisé ça, je vais partir de la salle de Carquefou, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Donc cette salle de spectacle, qui est une salle de spectacle publique, qui relève de la mairie de Carquefou, hein, puisqu'il faut savoir de quoi on parle, a acheté un spectacle à une société italienne qui s'appelait Opéra Stage, qui vendait la prestation dite Compagnie Italienne d'Opéra de Milan. Cette société italienne avait acheté la prestation de spectacle à une société espagnole qui s'appelait Orchestre Symphonique Europe Méditerranée. Et cette société espagnole avait acheté le spectacle à une société bulgare qui était voilà. Et ce que je veux dire, c'est que bon, alors c'est vrai, je le savais très bien en le présentant comme ça. Bon, ce que je veux dire, c'est que au niveau syndical, on mène une véritable guerre contre ça, parce que si on se laisse gangréner, évidemment, si on va finir par perdre définitivement. Et c'est, on mène la guerre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec cette façon de mettre les contrats les uns dans les autres, le type qui a organisé ça, on l'a fait condamner devant le tribunal correctionnel de Nanterre il y a 3 mois de ça, là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, ils s'en sortent bien. Et celui qui s'en sort le mieux, c'est le directeur du théâtre de Carquefou, parce que c'est un directeur de théâtre, c'est son métier. Il sait combien... ils ont joué Don Giovanni. Pour jouer Don Giovanni, il faut un orchestre, il faut des chœurs, il faut des solistes. Il sait combien il y a de travailleurs du spectacle à payer pour ça, et il sait très bien qu'au prix où il l'a payé, qu'on connaît, eh ben, il sait très bien que les gens ne sont pas payés. En tout cas, qu'ils sont payés de misère. Voilà, c'est pour dire que la pression telle qu'elle est faite, elle ne vient pas toujours de très très méchants du secteur privé, mais ça peut être dans des choses très publiques, voilà, comme là un théâtre municipal qu'on organise, et qu'en tout cas on prend la responsabilité d'organiser ce genre de choses. Voilà les quelques exemples que je voulais fournir pour ce débat.
Alors, avant de vous passer la parole pour un débat, qu'est-ce que vient faire un journaliste sur un sujet pareil ? Je crois que si on s'est intéressé très tôt à la directive Bolkestein, au point d'avoir sorti en France probablement le premier papier sur la question entre les deux tours des régionales de mars 2004, c'est parce que ce texte et la manière dont il a été préparé pose d'abord un grave problème de démocratie. La démocratie, c'est la publicité des débats. C'est pas uniquement déposer un bulletin dans l'urne pour désigner un représentant tous les 5 ans ou tous les 6 ans, qui ensuite vous dit « dormez braves gens, on s'occupe de tout ». C'est pouvoir suivre ce que font ces représentants, discuter leurs décisions, pouvoir les remettre en cause éventuellement par des mobilisations, par des prises de position, par des manifestations. Et là, en l'occurrence, il y avait quand même un problème, c'est que on a pu voir que ce projet de directive a été adopté dans le huis clos de la commission. En janvier 2004, il n'y a eu aucune publicité, puisqu'il a fallu quand même aller chercher le texte, qui est quand même relativement épais, on pourrait le montrer dans les débats tout à l'heure, et ensuite en faire une propre exégèse, puisque rien n'était fait, tout était fait pour que rien ne transparaisse. Ensuite, le problème de démocratie, on l'a vu par la suite, quand bon nombre... d'élus et non des moindres ont commencé à s'indigner du projet de cette directive. C'était à l'automne 2004, quand la campagne sur le référendum a commencé, puis au début de l'année, où on a vu les principaux dirigeants dire que vraiment ce texte allait beaucoup trop loin. Alors là aussi, il faut peut-être remettre les choses à plat, et dans Apolitis, on l'a fait, on n'est pas les seuls, mais s'il y en a que ça intéresse, il y a des vieux exemplaires que j'ai ramenés pour l'occasion. Les choses viennent de très loin. Si au sein de la commission, on nous dit le texte a été adopté sans débat, au mois de janvier 2004. Auparavant, il y a eu beaucoup de délibérations, il y a eu des réunions, tout a été précédé par des réunions, des sommets européens, par des conseils ministériels, par des rapports aussi du Parlement européen qui ont encouragé la Commission. La Commission, quand elle sort ce projet de directive, c'est pas tout à fait un ovni. C'est pas le résultat uniquement du bon vouloir de la commission, ce qui serait trop simple. La commission, dans cette affaire, elle a aussi un mandat. Tout dans ce texte, enfin, ça a été montré par une partie des intervenants, et un patient résultat d'une construction idéologique et juridique. Bon, qui trouvait d'ailleurs son accomplissement dans le traité constitutionnel européen. C'est aussi le produit d'abandons successifs qui finissent par accoucher d'une monstruosité. Alors ça part effectivement, on peut faire partir ça de l'arrêt Cassis de Dijon dont a parlé Pierre Calfa. Ça part aussi plus récemment d'un sommet européen important qui a accouché d'une stratégie pour 10 ans de l'Union européenne. C'est le sommet de Lisbonne au printemps 2000 qui a donc accouché d'une stratégie. Donc à l'époque, malheureusement, 15 les 15 chefs d'État et de gouvernement étaient pour 11 d'entre eux des socialistes. Et leur objectif stratégique, c'était devenir l'économie, faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Ça, c'est pour les mots, puisque parmi les 28 objectifs, on trouvait notamment accélérer la libéralisation des services publics tels que le gaz, l'électricité, les services postaux et les transports, mais aussi l'espace aérien. Moderniser la protection sociale, notamment en procédant à l'élimination des obstacles à l'investissement dans les fonds de pension. On y trouvait aussi l'élimination des entraves aux services. On y trouvait réclamer comme objectif réduire la pression fiscale qui pèse sur le travail, et relever le niveau d'emploi pour ce qui signifie, entre autres, reculer l'âge de la retraite. Donc, à la suite de ce sommet, la Commission et M. Fritz Bolkestein a fait une communication pour exposer quelle pourrait être une stratégie pour le marché intérieur des services. C'était en décembre 2000. Là, il expose la philosophie générale de ce qui sera sa directive. Et cette approche reçoit le soutien du Conseil des ministres marché intérieur en mars 2001, donc du représentant du gouvernement de la France. Il se trouve qu'on ne doit pas prendre toujours les affaires très au sérieux, puisque ce jour-là, le gouvernement avait envoyé un simple représentant permanent adjoint auprès de l'Union européenne, donc un haut fonctionnaire, et c'est aussi approuvé par un rapport du Parlement européen. Alors, je passe sur tous les détails, mais il y a une succession comme ça de moments où la Commission affine un peu ses idées Et le Parlement dit c'est bien, peut-être qu'il faudrait aller plus loin comme par-ci. Les chefs d'État ou en tous les cas leurs ministres ou leurs représentants disent que ça convient tout à fait. Et on aboutit au résultat. Donc personne ne pouvait être véritablement surpris, sauf à vouloir jouer un double langage face à l'opinion publique, à vouloir masquer les choses. Et ça, c'est un bon travail à faire que de dévoiler un peu ce qui se passe en coulisses. L'autre raison pour laquelle, et là, je pense que ça peut ouvrir aussi le débat, pourquoi ce sujet est intéressant, pourquoi cette directive elle est aussi importante. Pas uniquement parce que ça couvre un ensemble d'activités extrêmement large. On l'a dit, 70% de la richesse produite, parce que ça touche à notre vie quotidienne. Des services, on en a besoin tous les jours. Et si ça touche à notre vie quotidienne, ça touche quelque part à notre manière de vivre, à notre mode de vie. Si les collectivités locales qui sont des instances démocratiquement élues ne peuvent plus choisir selon des critères qu'elles définissent et que la population quelque part approuve ou n'approuve pas la fois d'après, si elles ne peuvent pas choisir des prestataires de services de manière libre, si c'est soumis au contrôle d'une commission européenne, dans quelle démocratie vit-on ? Maintenant, La question est plus fondamentale sur le mode de société, c'est que ça induit, la plupart des intervenants en ont parlé, un système de concurrence généralisée où on met en concurrence les États, des territoires, on met en concurrence les peuples entre eux. Mais si on met les peuples entre eux en concurrence, si on met les travailleurs en concurrence entre eux, où va-t-on nous parler ensuite du sentiment d'appartenance de la citoyenneté européenne ? Qu'est-ce que serait cette citoyenneté où chacun serait en concurrence avec chacun ? Le beau mot de fraternité qui figure dans notre devise républicaine, c'est même plus la peine d'en parler. Donc là, il y a véritablement une question centrale qui mérite en tous les cas un large débat. Et d'autant qu'on voit bien, quand on refait le fil d'où vient cette directive, qu'on reprend tout ce qui a pu se jouer à Lisbonne, on voit bien que la plupart des mesures qui, dans notre pays, ont suscité le plus de contestations, sont des mesures qui sont décidées à un autre niveau que le niveau national, mais qui sont décidées au niveau européen. Et c'est un moyen, cette directive, peut-être un moyen comme un autre, outre les enjeux importants qu'elle recèle en elle-même, un moyen de prendre conscience que le combat social et politique doit de plus en plus être porté au niveau européen. Enfin, dernier aspect intéressant de ce sujet, il me semble, c'est que la directive a, par ses aspects extrêmement brutaux, par tout ce qu'elle génère comme modification dans la société, a permis, pour une bonne part, effectivement, la victoire du non en France. Je pense que en exigeant son retrait, en continuant le débat sur ce sujet, ça doit permettre aussi de reparler de l'Europe, sujet qui, depuis la fin mai, est quand même beaucoup passé aux oubliettes dans le débat public.